Pour votre info est présenté par Desjardins.
Cette semaine, de combien d'immigrants avons-nous besoin? Une question simple en apparence qui devient vite compliquée.
Est-ce que l'immigration permet de pallier aux pénuries de main-d'œuvre? Est-ce que l'immigration permet de stimuler la croissance économique? Est-ce qu'on bénéficie pleinement des investissements que Québec International ou d'autres organisations font pour attirer et retenir des talents?
Discussion avec la DG de l'Institut du Québec et la responsable de l'attraction de talents chez Québec International. Je m'appelle Laurent Thérien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Le constat est assez simple. On manque de monde. Et on va de plus en plus manquer de monde. Dans 10 ans, il y aura davantage de décès que de naissances au Québec si on ne fait rien. Mais pas besoin de regarder dans 10 ans pour voir les effets du ralentissement démographique. Pensez aux effets de la pénurie de main-d'œuvre. En ce moment, il y a un peu plus de 200 000 postes vacants au Québec. C'est énorme. C'est 6 % des emplois qui ne sont pas comblés en ce moment. Alors, on fait quoi? Bien, l'immigration est très certainement une des solutions pour inverser en partie cette tendance-là, à condition de trouver les bonnes personnes et d'en accueillir le bon nombre. On va donc parler d'immigration cette semaine avec nos invités, la directrice générale de l'Institut du Québec, Emna Braham. Bonjour.
Bonjour, Laurent.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Emna, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut du Québec, je rappelle que vous êtes un organisme de recherche économique qui s'intéresse aux questions de finances publiques, au développement économique et aux questions de main-d'œuvre. Est-ce que j'en oublie?
Exactement. Puis main-d'œuvre dans son sens large, donc l'éducation, la formation, l'immigration.
Merveilleux. La directrice principale responsable de l'attraction et de la rétention de talents chez Québec International est aussi avec nous. Janaïna Khamid, bonjour.
Bonjour, Laurent.
Alors, Québec International, Janaïna, c'est, bon, peut-être pour ceux qui sont de Montréal, l'équivalent de Montréal International, donc l'organisme qui soutient le développement économique de la région de la capitale nationale, qui aide notamment les entrepreneurs à dénicher ces fameux talents-là à l'étranger. Vous les aidez à aller à la source trouver les bonnes personnes.
Oui, effectivement, on est l'agence de développement économique pour la région de la capitale nationale et également pour la région de la Chaudière-Appalaches.
Merveilleux. Emna, on va commencer avec toi cette discussion sur l'immigration, si tu veux bien. Je me rappelle de la fameuse phrase de François Legault dans la dernière campagne électorale qui disait « il faut en accueillir moins, mais il faut en prendre soin ». La question va être toute simple, mais je sais que la réponse est compliquée. Idéalement, il nous faudrait combien de gens par année de plus?
Bien, je pense que ce n'est pas nécessairement la bonne question à poser parce que moi, en tant qu'économiste, il y a plusieurs autres questions qui me semblent plus pertinentes. Par exemple, est-ce que l'immigration permet de pallier aux pénuries de main-d'œuvre? Ben oui, mais en partie, il faut nuancer. Est-ce que l'immigration permet de stimuler la croissance économique? Oui, ça permet de grossir la tarte, mais pas nécessairement la part que chacun d'entre nous va avoir de cette tarte-là. Donc, est-ce qu'on bénéficie pleinement des investissements que Québec International ou d'autres organisations font pour attirer et retenir des talents? Ben, il y a aussi des enjeux-là. Alors moi, je pense qu'il y a plusieurs autres questions auxquelles on devrait répondre plutôt que combien d'immigrants est-ce qu'on a réellement besoin?
Parce que je t'écoute puis je me dis, le chiffre effectivement fait l'objet de tous les débats. Là. C'était 40 000, la presse disait il faudrait plutôt 70 000, le conseil du patronat disait c'est plus de 100 000 qu'il nous faut. J'entends ce que tu me dis par rapport au fait que le chiffre en tant que tel n'est pas important, mais tu dis quelque chose de très important par ailleurs. Tu dis, est-ce que ça permet de régler le problème de pénurie de main-d'œuvre? Oui, mais seulement en partie. Qu'est-ce que tu veux dire par là?
Parce que il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a cette situation de pénurie de main-d'œuvre. Puis, en fait, il y a plusieurs causes. On a tous les ingrédients d'une tempête parfaite depuis plusieurs années. On a, oui, un vieillissement de la population qui était déjà bien avancé. Donc, en gros, c'est la cohorte des baby-boomers qui est très nombreuse, qui prend sa retraite petit à petit. Et ça fait quand même qu'au Québec, on a 83 jeunes qui rentrent sur le marché du travail pour 100 personnes qui prennent leur retraite. Alors, on a ça, on est dans le pic de cette transition démographique-là, mais il y a d'autres éléments qui sont en cause. Il y a aussi qu'on a eu une croissance économique très vigoureuse avant la pandémie, puis la reprise post-pandémique a aussi été très vigoureuse au Québec. Donc, la demande, on a besoin de gens pour travailler dans les usines, les restaurants, les commerces. Et la troisième cause, c'est qu'on a aussi connu pendant la pandémie des déplacements de travailleurs vraiment importants. Donc, on l'a mesuré, en fait, il y a à peu près 500 000 emplois de plus qui sont payés 30 $ et plus de l'heure qu'avant la pandémie. Ça, ce que ça veut dire, c'est que pendant la pandémie, les gens en ont profité. Ils ont quitté des emplois souvent moins bien rémunérés, l'hébergement et la restauration, le commerce de détail. Ils ont perdu chacun plusieurs dizaines de milliers de travailleurs qu'ils n'ont plus retrouvés. Et ces travailleurs-là se sont placés dans d'autres secteurs. Donc, les pénuries, oui, c'est qu'on manque de monde, mais c'est aussi qu'on n'arrive pas à attirer des travailleurs dans certains secteurs pour certains jobs. Est-ce que l'immigration peut complètement combler ce besoin? Ben, oui et non, parce que l'immigration permanente, puis les seuils, quand on parle des seuils, on parle d'immigration permanente. L'immigration permanente au Canada et au Québec, c'est de l'immigration qualifiée. Donc, est-ce que ça peut combler ces besoins-là? Pas nécessairement. Mais par contre, l'immigration temporaire, puis on en parlera tantôt, là, dont on recherche de plus en plus, on fait de plus en plus appel, ouais. Ben elle peut combler en partie cette demande-là.
Très intéressant. On y revient effectivement sur la question de l'immigration temporaire un petit peu plus tard. De votre côté, Janaïna, vous travaillez avec des entreprises du Québec d'un peu partout là, qui ont de très grands besoins en main-d'œuvre. Donne-nous une idée des profils qui sont recherchés à l'international. Qui est-ce qu'on veut venir chercher pour venir travailler ici, s'installer ici?
Laurent, j'aurais le goût aussi de rebondir sur ce qu'Emma vient de mentionner parce que je ne pense pas que nous pouvons... Peut-être la bonne réponse, ce n'est pas de dire combien de personnes on doit attirer, mais j'aimerais faire un lien aussi avec la quantité de postes vacants qu'on a dans notre région. Donc, dans le quatrième trimestre de 2022, on parlait de plus de 34 000 postes vacants dans notre région ici. Et dans ces postes vacants, je vais vous parler donc quels sont les postes les plus recherchés. Chez Québec International, par exemple, l'année passée, nous avons pu accompagner plus de 800 entreprises d'une façon directe ou plus indirecte. Et la plupart des entreprises qui font partie d'accompagnement, des missions de recrutement à l'international sont des entreprises dans les domaines de la technologie de l'information. Il y a beaucoup d'entreprises aussi du secteur manufacturier, industriel, les secteurs de la santé. Il y a des besoins importants également. Et plus spécifiquement ici pour la capitale nationale, la région du Québec, les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration ont été beaucoup touchés. En partie pour les éléments dont Emma vient de mentionner. C'est sûr qu'il y a eu une bonne réorientation de ces travailleurs-là pendant la pandémie vers les autres postes.
J'aimerais ça que tu nous expliques comment vous faites pour aller recruter des gens à l'international de façon très concrète. C'est toujours un peu flou l'immigration, hein? C'est un concept, mais derrière ce concept-là, il y a du monde avec des réalités qui prennent la plus grande décision de leur vie, là. Ils se déracinent et ils s'enracinent ailleurs. Vous allez les chercher où? Vous leur dites quoi pour venir s'installer à Québec?
En fait, il y a plusieurs façons, d'une façon concrète, hein, que nous pouvons accompagner les entreprises. Il faut savoir que nous pouvons accompagner toutes les sortes d'entreprises, toutes les tailles d'entreprises. Il y a des entreprises qui sont plus autonomes, donc on va adapter notre offre de services. Il y a des entreprises qui ont besoin vraiment d'être prises par la main. Donc, on peut aussi accorder une offre un peu plus clé en main, plus sur mesure auprès de ces entreprises. Concrètement, pour travailler les volets d'attraction des talents, soit on va diriger les entreprises à faire des affichages de postes directement sur les sites Québec en tête, qui sont un portail de référencement, auprès de la clientèle qui est à l'international. Donc, les entreprises peuvent faire des affichages et aller, en fait, rejoindre plus de 800 000 candidats qui sont déjà sur cette plateforme. Donc, on parle là un peu de notre pouvoir d'attraction. Et sinon, nous pouvons également accompagner les entreprises lors du déploiement des missions de recrutement à l'international. Et on est pas mal un peu partout au monde, mais il y a des territoires qui sont plus visés, disons, par nous.
Donc, des missions où les représentants de l'entreprise vont aller eux-mêmes raconter leur histoire, essayer de trouver les bonnes ressources à même le bassin de talent à l'étranger, c'est ça?
Exactement, d'une façon très concrète. Hein, je vais essayer de faire ça d'une façon très, très concise. Les entreprises vont venir vers nous. D'abord, on va vérifier si l'entreprise, elle se qualifie un peu pour recruter à l'international. Parce que comme Emma disait, c'est le recrutement à l'international, ce n'est pas la recette magique, hein, ce n'est pas la solution pour tous les problèmes. Ça se peut qu'en jasant avec une entreprise, Laurent, on va voir davantage que l'entreprise doit accroître ses pratiques locales. Ça se peut que l'entreprise a besoin, en fait, de passer pour une transformation numérique ou, en fait, le Centre d'expertise industrielle de Québec peut l'aider. Peut-être qu'elle a besoin de passer par l'automatisation. Il y a plusieurs aspects à y voir. Quand on va vraiment diagnostiquer que cette entreprise, que les postes qu'elle cherche aussi, n'a pas de Canadiens pour occuper cette poste-là, par exemple, qu'elle se qualifie pour l'international, là, on va voir. Bon, c'est un poste, par exemple, de soudeur. Quels sont les prérequis de ces postes-là? Et on va conseiller l'entreprise à aller chercher sur un bassin potentiel. Et ce qu'on regarde à l'étranger, c'est vraiment le niveau de formation, le niveau de compétences langagières et aussi le niveau d'expérience professionnelle. Mm-hmm. Donc, ce sont les trois principaux aspects qu'on va regarder avant de conseiller l'entreprise.
Emna, je reviens à toi pour la question de l'immigration temporaire versus la question de l'immigration permanente, parce que ça touche exactement ce dont Janaïna nous parle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on répond le mieux possible aux besoins des entreprises qui ont de très, très grands besoins de main-d'œuvre. Avant qu'on aille là, explique-nous c'est quoi la différence immigration temporaire versus immigration permanente.
Oui, parfait. Bien, ce qu'il faut retenir, c'est que au Québec, comme au Canada, on a une planification à chaque 3 années. En fait, le gouvernement du Québec dépose un plan et dit combien de nouveaux résidents permanents est-ce qu'il veut accepter dans l'année. Puis c'est ça le fameux seuil dont on parle le plus souvent. Il a été à 50 000, rabaissé à 45 000, puis remonté petit à petit à 50 000. Puis là, on a comme un rattrapage de la pandémie à faire. Donc, on a accueilli 62 000 personnes en 2022 comme résidents permanents. Donc, ça, c'est des gens qui ont reçu leur carte de résident permanent. Ils peuvent vivre, travailler au Canada de manière sans limite de temps. En parallèle de ça, on a les résidents temporaires. Alors ça, c'est très hétérogène. En fait, c'est plein de mondes très différents qu'on retrouve dans ce groupe-là. On a les étudiants étrangers qui travaillent de plus en plus. Puis depuis novembre dernier, je pense, ils n'ont même plus besoin de déposer une demande supplémentaire. Dans le sens, si tu viens pour travailler ici au Québec, tu peux travailler à temps plein aussi en même temps, à temps partiel ou l'été. Ça inclut aussi les travailleurs temporaires. Alors, ça va du très peu qualifié, les travailleurs dans le secteur agricole, par exemple, à des travailleurs dans le secteur de l'intelligence artificielle. Puis ça, en général, c'est des travailleurs que, ou bien un employeur est allé chercher et recruter à l'international puis a fait venir avec un visa temporaire. Ou bien c'est des gens qui sont passés d'un statut à l'autre. Donc, par exemple, on compte beaucoup d'étudiants qui, après avoir fait leurs études, ils peuvent faire une demande de visa post-diplôme, donc pour continuer à travailler. Donc, c'est un groupe très hétérogène. Puis, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a vraiment eu un changement de paradigme dans les dernières années et on accueille beaucoup plus de résidents temporaires qu'on le faisait avant. Alors, si on focus sur le 62 000 nouvelles personnes qui ont eu une carte de résident permanent, bien, en parallèle, on a accueilli 86 000 travailleurs temporaires. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, c'est que le seuil dont on parle souvent, il est de moins en moins représentatif du nombre de nouvelles personnes qui sont vraiment arrivées sur le territoire, pour la raison donc, que je viens d'expliquer. Puis la deuxième raison, c'est que parallèle de ça, c'est qu'on est en train de passer un peu à une immigration en deux étapes où on vient comme résident temporaire parce que c'est plus facile, parce qu'il y a un employeur qui vient nous rechercher, puis après, on fait notre demande de résidence permanente. Donc là, même dans le seuil dont on parle, le 62 000, il y a 28 % de personnes, ce n'est pas des nouvelles personnes qui arrivent sur le territoire. C'est des gens qui sont déjà ici, qui travaillent ou qui étudient et qui ont simplement changé de papier.
Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on n'est pas en train de créer là deux classes d'immigrants, si tu veux, c'est-à-dire les immigrants de plein droit qui arrivent avec un statut de résident et les immigrants temporaires? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérapage là?
Bien, il y a plusieurs enjeux à considérer. D'une part, c'est que il faut comprendre que c'est compréhensible qu'on fasse appel à des travailleurs temporaires parce que, comme on l'a dit tantôt, la demande des employeurs, elle est importante. Là, on a eu de la croissance, on cherche des travailleurs, il y a beaucoup de départs à la retraite. Et en même temps, les seuils sont restés relativement limités et donc, on se tourne vers les travailleurs temporaires parce que, rappelons-le, il n'y a pas de seuil. En fait, il n'y a pas de maximum de travailleurs temporaires qu'on peut accepter chaque année. Donc, c'est long, c'est cher, puis Janaïna va sûrement en parler, mais il n'y a pas de seuil, donc on se tourne vers eux. Mais les défis sont nombreux. Un, on ne peut pas planifier. Donc, si on dit que les immigrants, ben oui, ils contribuent en travaillant, mais ils utilisent aussi des services publics, ils ont besoin de garderies pour leurs enfants, de services de santé, etc. Si on ne planifie pas cette immigration-là, ben est-ce qu'on peut se retrouver avec des enjeux de livraison de services aux citoyens?
Mais je pense au logement aussi. On manque à un certain point, il faut que ces gens-là vivent quelque part.
Exactement. Puis on veut en attirer en région où on sait qu'il y a des enjeux de logement pour les Québécois, puis donc pour n'importe qui mm-hmm. s'installe là. Donc, il y a l'aspect de planification, puis il y a l'aspect de précarité, effectivement, parce que c'est pas tous les visas, mais certains des visas, comme les travailleurs temporaires, ils sont liés à un employeur. Alors, ça peut causer, effectivement, certains maux de tête. Si on veut changer d'emploi, c'est plus compliqué, etc. Donc, il y a cet enjeu-là.
Janaïna, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Donc, d'abord sur la question de l'immigration temporaire, si les besoins des entreprises sont très, très clairs, sont circonscrits dans le temps, j'imagine que c'est une option intéressante si on peut aller les chercher directement. En même temps, comme le disait Emna, ça crée toutes sortes d'autres problèmes sociaux potentiels. Est-ce que c'est ce que vous vivez à Québec?
Oui, dans le fond, c'est exactement ce qu'on vit, c'est de ça qu'on entend au quotidien lorsqu'on discute avec nos entreprises. D'abord, pour répondre à ta question, Laurent, je crois effectivement à l'immigration temporaire parce que c'est une façon concrète d'aller faire une arrimage entre les besoins que nous avons et les profils qui vont arriver sur notre territoire. Donc, ça, c'est juste parfait. C'est quelqu'un qui arrive déjà avec un emploi à la hauteur de ses attentes professionnelles parce qu'on va chercher l'expertise, comme je disais. Donc, dans ce sens, c'est très intéressant. C'est sûr que les entreprises qui n'ont jamais fait ça doivent être accompagnées parce que ça peut être, dans nos jargons, un petit parcours de combattant la première fois, mais c'est possible, c'est faisable. Les entreprises ont de belles expériences. Ils sont en train finalement de poursuivre sa croissance économique, beaucoup grâce à l'immigration. Ça, c'est une chose. Concernant les enjeux, parce que c'est bien beau de faire tout le volet d'attraction, et oui, on est attractive. J'ai mentionné vite fait le nombre de candidats que j'ai ici sur ma plateforme, donc la quantité de personnes qui ont démontré l'intérêt de venir. Donc, pour attirer davantage, il faut qu'on ait des offres d'emploi concrètes pour faire venir. Mais après, comment faire la rétention, comment faire l'accueil de ce monde-là, c'est un autre défi. Quand je sais que c'est quelque chose que j'entends au quotidien auprès de nos entreprises, les enjeux liés au logement, au transport, à tous les services publics, finalement, auxquels on fait aussi face, à des défis dont on fait face en tant que Canadien. Ouais. C'est sûr que la clientèle immigrante vit ça d'une façon importante également.
J'aimerais vous entendre sur la dichotomie qui existe encore entre Montréal et les régions, parce qu'il y a 85 % des immigrants québécois qui arrivent au Québec qui choisissent encore de s'installer à Montréal. Or, on le sait qu'il y a des besoins partout sur le territoire et même ils sont exacerbés, les besoins en région. Pourquoi est-ce que les régions du Québec ne réussissent pas à se rendre plus attirantes pour la communauté immigrante?
Oui, je peux me lancer. Donc, dans le fond, c'est qu'on voit 75 % c'est un chiffre très, très important, effectivement. Je pense que d'une façon historique, les grandes métropoles, les grandes centres vont attirer davantage plus de monde. C'est normal si on regarde Toronto, Vancouver, etc. Donc, quelqu'un qui pense à s'installer au Canada vont d'abord penser à ça. Si on revient davantage ici pour la province du Québec, c'est sûr que les régions ont beaucoup, on a déjà s'amélioré dans ce sens, mais on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire pour accroître finalement notre visibilité, en fait. Parce que si on se compare honnêtement, nous avons tous les atouts, toutes les moyens finalement pour attirer, pour bien séduire, hein, si vous me permettez bien un sûr. Peu les mots, pour attirer des super bons candidats. Ouais. Mais comment se faire connaître? Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'ensemble, je pense que les entreprises, encore une fois, je vais souligner beaucoup, beaucoup les rôles des entreprises parce qu'on parle beaucoup de l'immigration, mais c'est pas la majorité des entreprises encore qui ont déjà songé à recruter à l'international pour attirer les régions. Ce qu'on a besoin, c'est d'offres d'emploi concrètes. Quelqu'un qui regarde une ville ou autre va davantage être attiré pour un poste à occuper. Donc, plus de postes à pouvoir on a, plus d'immigrants on va être capable d'attirer, à mon avis.
Emna, là-dessus, sur la régionalisation de l'immigration?
Bien, effectivement, c'est moi, je pense que c'est une des principales questions qu'il faut plutôt poser, c'est de dire comment est-ce qu'on veut attirer les Québécois et les immigrants en région, parce que c'est là où les défis de main-d'œuvre sont les plus importants. Mais c'est là aussi peut-être que la voie de l'immigration temporaire est une opportunité aussi, parce que c'est quand même des employeurs qui vont aller chercher des gens, les faire venir travailler dans leur facilité, qui va être pas nécessairement à Montréal, mais aussi en région. Et ensuite, ces personnes-là peuvent décider de rester. Puis un des défis qu'on voit aujourd'hui, c'est tout ce qui est la lourdeur puis les délais administratifs pour passer d'un statut à l'autre. Donc, disons qu'on a un travailleur temporaire qui veut s'installer à Québec. Il a vécu plusieurs hivers, il s'y plaît, il a un emploi, il a commencé à se faire des amis. Puis là, il veut faire une demande de résidence permanente. Là, ça peut prendre jusqu'à 36 mois là, d'attente, de délai, etc. Or, c'est un très, très bon candidat pour avoir un nouveau résident permanent en région. Donc, est-ce qu'on peut penser aussi à raccourcir ou à donner des passe-droits à des personnes qui sont déjà installées dans les régions du Québec en tant que temporaires pour qu'ils accèdent plus facilement à la résidence permanente? Ce serait une des solutions à regarder.
Ben justement, j'ai envie de vous qu'on se laisse là-dessus sur des pistes de solutions. Je vous donne une baguette magique. Je vous permets de faire trois choses pour régler la question, améliorer peut-être notre immigration au Québec. Qu'est-ce que vous faites? Qui veut se lancer?
Je peux me lancer. Je pense que je pense une des choses, c'est sensibiliser les entreprises, parce que je reviens sur les chiffres malgré les enjeux qu'on voit encore, malgré qu'il y a plusieurs entreprises qui sont déjà impliquées pour le recrutement international. Je pense que ça se passe encore beaucoup pour la sensibilisation des entreprises et leur ouverture aussi à la clientèle immigrante. Donc, ça sera une des pistes.
OK. Une deuxième, Emna?
Mais moi, je pense que la question des délais et de la lourdeur administrative, ouais, elle n'est pas anecdotique.
Ah non, non, non.
C'est ce qui fait qu'on perd aussi beaucoup de talents. On investit de l'argent là, pour attirer des talents au Québec et dans nos régions. Si on les perd parce que c'est trop long, c'est trop lourd de faire une demande, de renouveler son visa ou de demander une demande de résidence permanente, ben, en fait, on perd notre investissement. Donc là, il y a des efforts à faire là-dessus.
Bien, puis je vais donner la troisième. Moi, je pense que la régionalisation, c'est la clé. Il faut trouver une façon, effectivement, de rendre les magnifiques régions du Québec un petit peu plus attirantes. J'en profite en terminant pour parler d'une entente qui a été signée récemment entre Québec International et Desjardins, une entente d'une valeur de 1 350 000 qui va permettre d'appuyer les entrepreneurs dans leur démarche de recrutement à l'international. En voilà une façon concrète de venir travailler sur la disponibilité de la main-d'œuvre puis sur la régionalisation de l'immigration. Alors, je tenais quand même à le souligner, c'est un apport considérable pour votre organisation, Janaïna.
Effectivement, Laurent, on est super contente avec ces partenariats. D'une façon très concrète, Desjardins avec nous lors de nos missions de recrutement à l'étranger, par exemple, participe avec nous des webinaires auprès des candidats. Donc, il y a plusieurs façons concrètes qui ont de voir finalement la tenue de cette entente entre nous.
Merci pour cette réflexion très intéressante. On n'aura jamais su finalement de combien on en avait besoin, mais on comprend que le débat n'est pas là. Emna, Janaïna, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Ça me fait vraiment plaisir.
Bye!
Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan.
Ça fait un petit moment qu'on a parlé d'automobile à l'émission. Or, ben, ça continue la reprise du marché automobile au Canada. On va en parler avec Hélène Béjan. Bonjour Hélène.
Bonjour Laurent.
Alors, on en est où dans cette fameuse reprise? Est-ce qu'on a finalement réussi à reprendre le dessus sur les problèmes qu'on a vécu pendant la pandémie?
Bien, effectivement, la reprise est en cours. Là, il faut dire que les chaînes d'approvisionnement, ça s'est beaucoup amélioré au niveau mondial, notamment en ce qui a trait aux puces électroniques. Là, c'est un peu ce qui manquait pour la pièce clé qui nécessitait pour construire plus de voitures. Donc, c'est en partie réglé, mais c'est très inégal hein, selon les constructeurs. Donc, ce qu'on observe, c'est que globalement, La reprise de la production est faite dans la plupart des marchés. Et actuellement, la production d'automobiles au Canada est remontée à environ 95 % de ce qu'on avait au niveau pré-pandémie. Donc, la reprise est bien en selle, mais la récupération, là, dans le fond, n'est pas encore tout à fait complétée. Il faut dire qu'il y a des disparités importantes entre les marques et les modèles. Donc, la remontée des stocks n'est pas encore généralisée. Ce que ça amène, c'est que du côté des voitures à essence, la disponibilité s'améliore de façon quand même importante. Et par contre, du côté du créneau des véhicules électriques, ce n'est pas encore le cas. Donc, les délais sont encore importants et les stocks sont pratiquement inexistants. Donc, ça prend beaucoup de patience pour se procurer un véhicule électrique. Et ça devrait persister là, tout au cours de l'année 2023.
Je confirme, moi j'attends toujours depuis un petit peu plus qu'un an là, mon véhicule électrique, puis on m'a dit récemment qu'il faudrait que je sois encore un petit peu patient pour la suite. je veux qu'on parle des prix, Hélène, parce que bon, on avait vu une flambée des prix sur tous les marchés, là, les véhicules neufs, mais aussi les véhicules usagés. Est-ce que la flambée des prix des dernières années va maintenant faire place à une petite baisse des prix?
Bon, ça dépend si on se situe du côté du neuf ou de l'usager. Du côté des véhicules neufs, on a vraiment assisté à une flambée des prix pendant la pandémie. Avec la meilleure disponibilité des véhicules, les prix continuent d'augmenter, mais à un rythme beaucoup moins rapide. Donc, ceci dit, c'est quand même une amélioration de ce côté-là. On s'attend pas à ce que les prix baissent, hein, parce que on sait que les prix de la plupart des composantes ont énormément monté. Donc, ça fait en sorte que les véhicules vont continuer d'être quand même assez dispendieux, mais dans le fond, la forte période d'accélération des prix est terminée. Donc, on se retrouve avec des prix qui augmentent un peu plus modérément, si on peut dire. Par contre, du côté des véhicules d'occasion, on sait que la demande avait été très forte pendant la pandémie du fait qu'il y avait moins de véhicules neufs de disponibles.
Ben oui.
Maintenant que celle-ci s'est accrue, eh bien, il y a une partie de la demande du côté des véhicules d'occasion qui est moins au rendez-vous. Ceci dit, dans le fond, la disponibilité des véhicules d'occasion s'est améliorée. Et ça fait en sorte que de ce côté-là, les prix ont commencé à diminuer. Selon le magazine Auto Hebdo, le sommet des prix aura été atteint du côté des véhicules usagés en juin 2022. On sait que les prix étaient démesurés pendant la pandémie, donc ça a commencé à reculer un peu, mais ça n'enlève pas toute la progression des prix qui a été observée là, au plus fort de la pandémie.
Et parle-nous rapidement de la remontée des ventes de voitures. Est-ce qu'on s'attend à une vraie remontée durable des ventes d'automobiles possible cette année?
Bien, disons que l'année a bien débuté. Là, au tournant de l'année, on a quand même, un sursaut au niveau des ventes d'automobiles. Par contre, il faut dire qu'il y avait beaucoup de commandes qui avaient été placées pendant la pandémie qui sont maintenant en mode livraison. Il y a quand même quelques désistements de certains acheteurs qui s'étaient engagés à acheter un véhicule. Puis finalement, avec la remontée des taux d'intérêt, il y a beaucoup quand même de consommateurs qui ne sont plus en mesure d'acheter les véhicules qu'ils avaient commandés. Donc, globalement, le marché s'est amélioré au niveau des ventes. Donc, on a eu des années où la demande était forte, il n'y avait pas de véhicules de disponibles. Maintenant, en 2023, on arrive avec plus de véhicules sur le marché qui sont disponibles à l'achat, mais des consommateurs qui sont moins... dans une situation financière moins propice à l'achat d'un véhicule, ce qui est quand même un achat important.
C'est sûr, il y a moins de place dans le budget. Hélène, merci pour cette chronique et merci pour ces quelques années passées à les faire ensemble. Ça a été un plaisir de te côtoyer au micro de Pour votre info.
Merci Laurent, ça a été un plaisir également de mon côté.
À très bientôt, j'espère.
À bientôt.
Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Pour votre info, est un balado indépendant présenté par Desjardins. Notre recherchiste est Philippine de Tinguy et nos épisodes sont enregistrés au studio Edgar à Montréal. Notre technicien est Steve Cordeau. Tous nos épisodes sont disponibles sur C23, la plateforme balado de Cogeco Média, ainsi que sur Spotify, Apple Podcasts et partout où vous retrouvez vos balados. Je m'appelle Laurent Thérien. Merci d'avoir été avec nous. On se reparle la semaine prochaine.